Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 26e épisode, épisode numéro 25. Nous sommes le 11 octobre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefèvre. Bonjour Arnaud Lefèvre, qui êtes-vous ?
Bonjour, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe de développement divers et variés et d'infrastructures dans la boîte.
Je suis aussi accompagné de Pierre-Antoine Grégoire, dit PAG. Bonjour PAG, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis PAG, Pierre-Antoine Grégoire, je travaille avec Clever Cloud sur notamment des sujets de Rust et de VM et de conteneurs et de choses rigolotes.
Et d'infrastructures as a service ?
Évidemment, évidemment.
Et je suis aussi accompagné de Steven Leroux. Bonjour Steven Leroux, qui êtes-vous ?
Bonjour Laurent. Eh bien, je suis Steven, et moi je suis chez OVH Cloud, et je m'occupe de problématiques d'infrastructure, puisque OVH Cloud, et principalement Network en ce moment, à côté d'autres petites choses.
D'autres petites choses. Eh bien, commençons par une petite chose. Salesforce rachète Slack. Petite chose, je ne sais pas quelle était le tarif de l'opération.
30 000 milliards, c'était gigantesque, c'est pas loin de la trentaine de milliards, dans mon souvenir. Mais il faudrait retrouver le chiffre.
Mais ça devient pas un peu le standard, c'est un peu comme t'as raté ta vie si t'as pas une Rolex, est-ce que t'as pas racheté ton acquisition si elle est pas à moins de 30 milliards, tu vois.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça, c'est 27, ouais. Un petit achat, quoi.
Un petit achat. Et donc, Salesforce, CRM, on peut, sans trop de problèmes, dire leader du marché. Je pense que la quantité de gens qui mettent Salesforce comme prérequis en tant qu'outil pour venir travailler, c'est vraiment devenu un gros, gros, gros standard. On rappelle par ailleurs que Salesforce avait déjà racheté Heroku il y a quelques années. Mmh. Et là, ils rachètent Slack. Donc, l'objectif, c'est de devenir la plateforme de travail digital numérique. Pour intégrer à Salesforce Customer 360, bon, en gros, ils font une grosse plateforme de bourrin pour révolutionner la façon dont les gens travaillent. Wait and see, je rappelle que Slack à la base était censé supprimer l'email. À part rajouter des canaux Slack à tout le monde, je sais pas trop ce que ça a fait.
Avec des notifs mail.
Ouais, c'est un peu gratuit. Nous verrons. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Ou est-ce qu'on passe au lien suivant ?
Sur supprimer l'email ou... Parce que ça, c'est ouais. Tous les 5 ans, tu as toujours un gars qui vient te dire « Dans 2 ans, il n'y a plus d'email. »
Et ça ne marche pas. Force est de constater qu'il
y en utilise encore pas mal.
En pratique, écoute, c'est devenu central à beaucoup de choses quand même. Hein, ce mode, c'est assez singulier que ce mode IRC, IRC web qui finalement était quelque chose très... un peu nerdy, en fait, le principe de l'IRC et des channels comme ça, soit autant répandu, même en usage d'entreprise, quoi. C'est assez marrant.
C'est que c'est devenu simple d'utilisation, on va dire.
Ça apporte quelque chose que tu trouves pas dans les autres outils, quoi.
Ouais, c'est devenu simple, mais il y a un effet de mode aussi. C'est-à-dire que tu t'aperçois que beaucoup de choses essaient de se mettre au temps réel pour accélérer les choses, mais tu t'aperçois que le côté asynchrone du mail... il a aussi un intérêt, c'est-à-dire que c'est pas évident de gérer l'asynchronisme sur des solutions temps réel, et je sais que sur des problématiques, par exemple, de travail en open source avec des gens qui peuvent être un peu n'importe où sur la planète, c'est pas forcément tout le temps l'outil que tu utilises pour bien te coordonner ou quand t'as besoin de, tu vois, de pas de te mettre bloquant dans le truc, mais de valider un truc certaines solutions vont permettre d'avoir des threads, d'avoir des trucs qui permettent d'éclairer un petit peu ça, mais pour moi, on n'a pas encore touché au Graal de la communication. Tu es encore très soit synchrone, soit asynchrone. Et c'est pas encore miraculeux, je trouve.
Bah, surtout qu'en ce moment, les moldus du télétravail, pour le dire gentiment, ont tendance à vouloir tout faire en synchrone. Et en fait, c'est pas gérable. On s'en rend compte depuis entre guillemets les confinements de manière générale. Les gens veulent t'appeler. On a une explosion des demandes de synchronicité au support. On peut se passer un coup de fil. On peut. Non, en fait.
Les gens sont en manque de contact, en fait. C'est surtout ça.
Bah, c'est Orange qui disait qu'ils avaient vu justement une augmentation assez significative des conversations téléphoniques et jusqu'à saturer en fait les liens, même VoIP ou ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'effectivement tout passe pas par la visio et que le contexte actuel a donné envie aux gens de communiquer beaucoup plus.
En synchrone, ouais.
Synchrone, ouais.
Complètement.
Absolument.
Non, peut-être la question que ça pose, c'est comment ils veulent le positionner. Et, quelque part, le fait qu'ils achètent Slack, ça les positionne un peu en alternative à l'offre de Google. J'ai plus son nom là.
Meet.
Non, mais enfin qui globalise, tu vois, l'aspect Gmail avec la messagerie, la visio, le truc, le machin. T'as Microsoft à côté. Ouais, j'ai Google Suite. Ouais. Et du coup, est-ce qu'ils vont aller vers là? Et ça veut dire que après Slack, est-ce qu'ils vont avoir aussi de la visio là-dedans ou pas?
Bah, quel est l'intérêt de brancher Slack au plus gros CRM ou au CRM de ta boîte? Parce que c'est ça qui va se passer, je pense, au début en termes d'intégration.
Je ne sais pas s'ils ont tellement réfléchi à ça, mais je pense que ça fait partie des acquisitions de consolidation de la plupart des gros. C'est-à-dire que globalement, tu as Teams qui s'est construit un peu comme ça, tu as Oracle, c'est Oracle qui héberge Zoom aussi maintenant, non? C'est ça, le cloud Oracle, je crois, qui a été pris pour Zoom, non, ou un truc comme ça.
Non, c'était pour TikTok, ça. Je
c'était pour TikTok? Ah, ouais, peut-être. Il me semblait que j'avais entendu que Zoom avait, ils avaient eu le deal pour Zoom aussi pour l'augmentation d'infra. Ah, je me trompe peut-être. Et, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements autour de tous les outils de communication qui sont un peu trendy et Slack étant très utilisé, il y avait à un moment donné, ça peut être simplement aussi, au-delà de la communication, une acquisition pour éviter que ça parte ailleurs, quoi. C'est peut-être tout simplement ça. Mais, après, c'est vrai que moi, du point de vue de l'usage qu'on en a dans des communautés tech, c'est intriguant de se dire comment ça va évoluer sous l'égide de Salesforce. Il y a des gens qui font de la tech chez Salesforce, mais c'est quand même pas l'objectif principal de la suite d'outils, quoi. Donc, si l'outil devient beaucoup plus grand public, est-ce que finalement les intégrations techniques vont pas en pâtir?
La façon dont il le présente dans le lien, c'est l'acquisition pour créer l'operating system de la nouvelle façon de travailler.
Ouais, c'est vague.
Voilà, on est dans la mousse, là, oui. Après, il faut voir comment ça se concrétise. C'est pas. C'est
exactement.
Pas yep.
Ok.
Des gros chiffres.
Yes. On va passer au lien suivant et on va parler de Timnit Gebru qui a été démissionné de Google. Et c'est un peu les deux impressions que tu vois suivant ce. Quel article tu lis? T'as plein de gens qui t'expliquent que c'était une spécialiste en IA et en éthique chez Google. Et suivant les articles que tu lis, on t'explique qu'elle a démissionné ou on t'explique qu'elle s'est fait virer.
C'est le moment où on sort le jingle, le moment people.
Exactement. On fait pas beaucoup de moments people, mais là, on peut, là, clairement.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un déphasage entre la démission. Quelles que soient les raisons, parce qu'il faut se dire que tu vas avoir soit la version de Google, soit la version de Timnit. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière, mais publiquement, même je veux dire, Jeff Dean, hein, dans sa communication, ce qu'il justifie, c'est de dire oui, mais la dernière publique qu'elle faisait, ça ne correspondait pas, machin, exactement à ce qu'on voulait. Mais je me dis, mais attends, est-ce que tu aboutis à une démission? Je suis un problème d'alignement lié à une publication de quelqu'un qui est quand même un peu reconnu dans le domaine. Je trouve qu'il y a... Alors, soit on ne sait pas tout, autre chose derrière. mais voilà, donc c'est le petit truc du moment où...
La démission de quelqu'un de visible dans une boîte très visible, c'est rarement open book, quoi. C'est qu'il y a une souffrance derrière qui, à mon avis, n'est quand même pas complètement traitée et qui n'était sans doute pas... clair non plus, même en interne, c'est-à-dire que ça a dû arriver à un point de saturation quand même. Ça arrive,
ça. C'est pas la première casserole de Google dans ce genre de casserole-là, en tout cas, c'est sûr. Mm. Et au moins, Skinshot, c'est vraiment la différence de traitement et l'absence d'excuses chez Google, en fait. Et indépendamment de ce qui s'est passé, les mecs sont juste... soit ils sont pas très sympas, soit ils sont juste mauvais en com, tu vois, je comprends. Enfin, pas d'excuses dans une situation comme ça, je ne comprends pas.
Ouais, connaissant pas le dossier, on sait pas si c'est juste d'être sympa ou pas, mais c'est clair que d'un point de vue comme ça la fout mal, quoi.
Ouais, et puis il y a la manière, enfin, je sais pas, on n'a pas, tu vois, le background de comment ça se passe, mais est-ce qu'elle était critique à un moment donné dans la chaîne stratégique de Google, et est-ce qu'elle se positionnait en bloquant je sais pas pour quelle raison, mais ce qu'il faut voir, c'est que les mecs lui ont dit on accepte ta résignation. En fait, bon, de quoi vous parlez? Elle avait déjà plus accès à ses mails, plus rien, etc. Ils avaient déjà tout bouclé, quoi. C'était tiens, ton carton est là, salut. Alors,
ça a été en fait
assez européen. Ouais. Bon, nous, ça nous choque parce que t'as toujours un petit temps, etc. Et là-bas, les choses sont un peu plus flexibles, on va dire. Mais il y a la manière. Quoi. Si on parle d'intelligence, de tout ça. Normalement, l'intelligence, c'est aussi dans le management, c'est aussi dans l'accompagnement. Si jamais il y a une rupture stratégique entre des façons de voir, etc., bah, tu résous les trucs avant d'agir, entre guillemets, de cette manière-là.
Bon, c'est les
ton bivoul.
Bon, bah, Google, quoi. Encore une fois, c'est pas la première ni la dernière casserole de ce côté-là. Les justifications qui sont tombées à côté, par contre, sont moi, c'est ça qui m'a le plus halluciné, c'est que le mec te dit ouais, mais ça a pas été, le papier a pas été soumis dans les délais. C'était normalement, elle l'a fait genre un jour avant. C'est pas comme ça que ça marche et tout. En fait, t'as des gens qui ont enquêté derrière et qui t'expliquent que la plupart de ces papiers-là, ils respectent pas du tout ces deadlines. Des fois, c'est même fait après. Et ça pose aucun problème, tu vois. Et le fait de sortir une excuse comme ça, bon ben, bah, manifestement, c'est une excuse bidon. Tu sais qu'il y a un souci.
Bah, ce qu'on voit enfin moi j'avoue que j'ai découvert le sujet là, mais ce qu'on voit dans l'article du Courrier International là qu'on a en lien dans les show notes, c'est que manifestement c'est plus sur le contenu de l'article qu'il y a quelque chose qui a frictionné, quoi. C'est-à-dire que sur ce que ça décrit, révèle ou alors projette comme volonté de changement, que ça cadrait pas. Après, ça peut faire l'objet d'un recadrage interne maintenant, comme elle est très visible et peut-être qu'elle communique très publiquement dessus. Il y a un moment donné où ça a clashé avec quelqu'un et c'est vrai que ça ressemble à quelque chose d'humain, un conflit de personnes plus qu'autre chose. Quoi.
Ouais, ou un conflit d'éthique, parce que
c'est ça. Oui, oui.
Et les justifications de Google sont sur la forme, là où manifestement le problème a l'air d'être sur le fond.
Mais ça ne nous regarde pas.
Ouais, après, ça ne nous regarde pas. On est quasiment tous utilisateurs de Google. Steven, tu le disais, don't be evil. Est-ce que ça donne envie de continuer à utiliser les produits Google?
Bah, surtout qu'en fait, son positionnement est un peu particulier. C'est-à-dire que Google est un peu IA à fond. Elle est là pour représenter un peu l'éthique derrière ce qui est fait. Dans des contextes d'élection où tu as quand même un acteur majoritaire sur le search, qui peut induire des résultats, qui peut, tu vois, y a aujourd'hui l'axe de la recherche sur l'IA, c'est quasiment même plus l'IA, c'est comprendre et expliquer, être capable d'expliquer les mécanismes d'apprentissage automatisé qui ont été faits pour qu'on puisse comprendre quel a été le choix de l'IA et l'expliquer. Donc l'éthique, elle a énormément de place dans ce domaine-là. Et là, presque tu peux te dire, mais c'est quoi, c'est vous en fichez de l'éthique ou pas, ou est-ce que c'est un problème humain? Et en fait, le côté flou autour de la communication du truc, je trouve, apporte plus de flou encore à quel est le positionnement de Google par rapport à ses positionnements éthiques. Complètement, on met à part l'aspect humain, peut-être qu'il y a eu des querelles internes, on n'en sait rien, mais nous, on aimerait bien, à la limite, que Google dise « Non, mais ça reste important pour nous », mais là, ils ont quand même viré leur lead sur le sujet, quoi, donc...
En prétextant des trucs sur la forme et pas sur le fond, moi, c'est ça qui m'a... Ouais. Anyway, on passe au lien suivant, sans absolument aucune transition, parce que là, ça va être compliqué. Un autre grand acteur du cloud qui, comme Google d'ailleurs, ne fait pas que du cloud, ce qu'on a tendance à oublier.
Ouais. Et de la logistique.
Du retail.
Et de tout.
Et de la livraison de courses et de... Bref.
Et de vaccins bientôt.
Et du paiement bientôt, j'imagine aussi. Enfin, tu vois, ils vont pousser. Ouais. Bref. En attendant, on retourne sur leur cœur de métier, mais c'est pas vrai. À la base, leur cœur de métier, c'était librairie en ligne, mais ça a un petit peu changé. AWS annonce un projet qui s'appelle Bubblefish, et c'est en fait vous avez déjà un certain nombre de produits AWS qui vous permettent de, d'utiliser des clients MS SQL, en termes de base, la base de données MS SQL Server. Mm-hmm. Et apparemment, derrière, ce serait du Postgres qui vont open sourcer Babelfish, qui est le support de MS SQL sur Postgres. En fait, ça veut dire que vous pouvez utiliser un client MS SQL et à partir du moment où vous avez installé Babelfish sur Postgres, le client MS SQL va s'y connecter comme si c'était une base MS SQL. Et ils ont aussi ajouté le support de TSQL, qui est le système de procédure de MS SQL, dans Postgres. Et pour l'instant, c'est une annonce. Tout ceci sera a priori open sourcé en 2021 et ce sera sous licence Apache 2.
Yep. Il y a de fortes chances que ce soit disponible avant, a priori, chez eux, mais qu'ils open source par contre le code à ce moment-là sur GitHub. C'est ouais. ce qu'ils ont dit. Et la question que les gens commencent à se poser, c'est est-ce que ça va être réintégré dans le projet Postgres ? Honnêtement, je suis pas persuadé que ce soit une très très bonne idée de mettre un boulet d'une couche de translation dans un projet qui va le bloquer sur son évolution technologique. Ce serait bien que ce soit un projet à part rattaché à plutôt que dans le cœur du truc. Mais en tout cas, c'est intéressant en termes d'un pour des gens qui veulent éventuellement commencer à migrer une partie ou à mettre leurs nouvelles applications sur du Postgres. Bah, ils peuvent commencer à mettre une partie de leur code base s'ils utilisent du SQL Server déjà dessus. C'est pas déconnant.
Ou même s'ils ont pas envie
de. Et c'est pas que du Wired Protocol. Je pense que c'est vraiment la partie TSQL qui est intéressante. C'est le fait que tu puisses pousser de la logique dedans. Il y a plein de gens qui font ça, notamment dans SQL Server, et de pouvoir repousser la même logique à l'intérieur. Alors, ils disent que c'est pas... Enfin, il y a des chances que ce soit pas 100% feature... Il faudra attendre les premiers tests quand même pour voir ce qui passe, ce qui passe pas, mais...
Ouais, ils annoncent pas 100% de compat,
ouais. Ouais, c'est ça. Mais... Donc, il faut quand même pas s'exciter en s'imaginant que quelqu'un va pouvoir installer un SharePoint avec ça comme back-end, quoi, je veux dire, à un moment donné.
C'est ça. Alors, faut-il mettre autant de code métier dans ta base de données ? Vraie question.
Vaste question. Si tu la poses à un DBA, il aura une réponse très tranchée. Si tu la poses à un développeur front, il en aura une autre. c'est... Bon, après, la fonctionnalité existe et c'est intéressant parce que sans qu'elle soit là, c'est compliqué de parler de compat, quoi, disons.
Je peux répondre à ta question. Hein, c'est pas compliqué quand tu bosses pour une base de données et que t'as pas le support de procédure stockée. Tu dis, oh là là, quelle mauvaise idée de faire du métier dans votre base de données. Et le jour où tu as la feature qui fait que c'est possible, tu dis, hey, regardez, maintenant on peut le faire, c'est trop bien. Faites-le. Bon, c'est à peu près ce qui s'est passé.
C'est toujours difficile parce que c'est un élément différenciant, parce qu'en effet, comme c'est pas complètement normalisé, du coup, chaque DB a sa procédure stockée, son langage de procédure stockée spécifique. Ouais. Du coup, c'est ce qui permet de différencier du voisin. Donc évidemment que les vendeurs de base de données ou les experts d'une base de données vont te pousser à l'utiliser. Et donc là, potentiellement, ça veut dire que sur Postgres, il y aura deux langages possibles.
Mais moi, je me demande, enfin, la réalité de la chose, c'est pour juste pour de la migration ou enfin, il doit bien avoir un goal derrière, non? Genre
payer des licences.
C'est Amazon qui le fait. Amazon n'a pas spécialement envie d'acheter SQL Server, mais elle veut proposer une compatibilité pour SQL Server, ce qui est aussi notre cas en tant que cloud. On va pas se mentir, tu vois, et ce qui est probablement le cas d'OVH Cloud aussi. Et on parlera des autres produits d'OVH après qui permettent de wrapper les expériences utilisateurs, les SDK des gens pour proposer une solution derrière qui tourne sans avoir à supporter le coût de la licence en question. Tu vois. Nous, on va annoncer le support .NET bientôt. J'en profite pour dire qu'il est déjà en bêta, que vous pouvez déjà faire du .NET chez Clever. La plupart des samples que j'ai trouvés en .NET étaient sur MS SQL Server et nous, on peut difficilement proposer du MS SQL à nos users sans qu'ils payent la licence eux-mêmes. Tu vois, c'est compliqué, sinon il faut faire des deals relous. En sachant que la plupart des acteurs, enfin beaucoup d'acteurs de bases de données vont avoir leur propre cloud, en particulier Microsoft dont c'est le métier. Donc tu vas te retrouver sur des situations de monopole un peu compliquées. Bah, tu prends par exemple MongoDB Atlas avec leur nouvelle licence, c'est très compliqué de proposer une solution Mongo sans passer par Mongo. Yep. Et du coup, avoir un truc comme ça, en plus lié à tu vois, en open source, c'est hyper intéressant. Moi, ce qui me plaît encore plus, c'est que c'est lié à Postgres, qui est une des bases de données en termes de santé open source. J'en avais déjà parlé, mais ce serait cool d'avoir un indicateur de santé open source de certains projets. Postgres, c'est un vrai projet open source parce que tu as plein de boîtes qui contribuent à Postgres. Et tu as un écosystème vibrant.
C'est un modèle assez particulier. Ça serait intéressant une fois d'avoir quelqu'un qui peut en parler très en détail. Mais j'ai même une idée de quelqu'un mais en particulier. Mais c'est vraiment un projet qui a un statut très spécial, même dans l'open source en général, dans son modèle et tout. La manière dont c'est comité, parce qu'il y a quand même quelques grosses boîtes committeurs. Enfin, il y avait Second Quadrant et Enterprise DB. Je ne sais plus quelle est la boîte qui est
Second Enterprise Quadrant, DB. Enterprise
et maintenant, je crois que c'est la même boîte maintenant. Je crois qu'ils ont fusionné, si je ne m'abuse. Ouais.
T'as Citus qui avait été racheté par Microsoft
et
aussi.
Voilà, c'est ça.
Mais l'intérêt était que tu avais un projet open source qui n'était pas backé par une seule boîte.
Et qui ne peut pas l'être. Il ne peut pas muter. Il va rester comme ça. Donc c'est vraiment intéressant.
Je trouve ça hyper intéressant à ce niveau-là.
Puis c'est dans les bases open source, alors il y a beaucoup de fans d'autres, hein, mais dans les bases relationnelles open source, c'est de loin la plus complète, hein, je pense, en termes de couverture de tout, quoi. Et elle reste assez facile à maintenir, à démarrer, à utiliser, à configurer. Après, il y a des niveaux de complexité plus ou moins variables suivant ce qu'on veut faire, hein, mais elle reste quand même assez facile.
Il n'y aurait pas eu la stack LAMP pour sauver MySQL, il y aurait du Postgres partout de mon point de vue.
C'est clair et net. Enfin, après, c'est jamais la meilleure solution technologique, entre guillemets, qui l'emporte potentiellement. Mais LAMP, ça a été le marketing de My. Mais quand tu vois My au moment où ça a explosé, c'était quand même, d'un point de vue architecture, ingénierie, design, c'était quand même une blague, quoi. Le proto de réplication, c'était ni fait ni à faire. Enfin, je sais que j'ai dû implémenter du binlog pour faire du change data capture, et du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un agent qui venait souscrire à un MySQL comme si c'était un slave. Et donc, on a décodé le binlog et on a implémenté ça pour pouvoir répliquer les bases internes à OVH et faire notre analytique basée sur le change data capture. Mais en fait, pour le faire, on avait, c'était assez vieux, mais on avait encore des vieilles structures MAI avec les vieux types décimaux et ce genre de trucs. Et en fait, du coup, on a découvert comment ce truc-là était codé, et ça m'a expliqué pourquoi est-ce que quand tu lis un binlog avec le tool MySQL binlog, quand tu tapes le type décimal, il ne sait plus décoder la suite. Il ne sait pas le faire. Parce qu'en fait, la façon dont c'est codifié, c'est que c'est un champ ASCII qui te dit, voilà, c'est un décimal de tel type, mais en ASCII. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas décoder le truc. Tu ne sais pas combien tu vas devoir lire dans le buffer. Et pourquoi un serveur MySQL sait le faire, c'est qu'en fait, lui, il a le schéma en conscience. Du coup, on a fait une lib qui venait d'abord faire une lecture du schéma, qui mettait le schéma en mémoire, et quand elle avait le binlog, on savait décoder ça à la volée. Du coup, on a la seule lib qui est capable de faire du change data capture pour les MySQL avant 5.0.
Joli placement.
Il y avait un côté, on savait pas, c'est open source, hein, mais on savait pas trop si c'était pertinent de faire de la com. Qu'est-ce qui était plus honteux? C'est-à-dire, on a encore des trucs comme ça qui tournent ou pas. Mais en fait, voilà, ils ont quand même fait ça, quoi. Dans MySQL, il y avait des trucs comme ça. Et moi, ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais comment tu fais ça, quoi? Et le design de PG est bien plus pensé, bien. C'est aussi lié à l'histoire du projet. Comme vous dites, ça a été bossé avec plusieurs boîtes, plusieurs acteurs différents qui, du coup, quand tu te mets autour de la table à savoir comment tu fais un truc, tu as tendance à te poser plus de questions et du coup à coucher un design qui est peut-être un peu meilleur.
Bah, c'est un truc aussi que tu ressens, moi, enfin, je sais à l'usage, alors mon usage ne couvre sans doute pas 100% des usages qu'il y a, mais tu prends une DB qui est en 8.1, en deux coups de cuillère à peau, tu l'upgrades en 13 et il y a quasiment tout qui fonctionne dedans, quoi. S'il y a une stabilité et une innovation en même temps qui sont assez surprenantes pour ce genre de projet. Alors après, encore une fois, sur des contextes de gros trucs de cluster avec des réplications de wall lock, ça peut être un peu plus complexe, mais déjà sur la base elle-même, c'est il y a une compatibilité ascendante déjà qui est assez forte, quoi.
Après, pour en revenir au sujet, moi je comprends pas trop cette annonce pour l'instant. C'est-à-dire que ils veulent ajouter une compate entre guillemets MS SQL Server sur, c'est pas, enfin ils disent PG mais c'est sur Aurora en fait. Or quand tu sais comment est architecturé Aurora, c'est justement un PG que tu découpes en deux et tu as la partie PG SQL avec vraiment la syntaxe de PG, ouais, sa couche transactionnelle inhérente à ce qu'elle sait faire. Mais après, ils ont découpé le truc. Alors, je sais plus exactement si c'est avant ou après le query planner, mais ce qui fait qu'ils ont décorrélé l'aspect stockage, gestion des pages, d'index, de tout ça, et de l'aspect transactionnel de la DB. Et ce qui fait que si on parle de MS SQL, a priori, c'est la partie TSQL et le moteur transactionnel de une réplica de SQL Server. Mais du coup, la partie d'en dessous, c'est Aurora. Donc, ça peut vouloir dire qu'ils ont une couche d'abstraction qui est commune et que peut-être que ça se traduit dans le même query plan, entre guillemets, entre les deux.
Je pense que, de mon souvenir, alors, mais là, je pense que là, ce que tu as dit va déjà plus loin de ce dont je me souvenais, donc ça va être très surface, mais il me semble que la partie, enfin, tout le bas reste très compatible entre Postgres et Aurora, c'est-à-dire qu'ils se basent déjà sur les abstractions inhérentes de Postgres pour plugger leur moteur en dessous.
Donc, c'est ça, de partager une interface qui fait que tu dois pouvoir.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans les annonces. Ils disent qu'en effet, quand ce sera open sourcé, et c'est déjà le cas maintenant, ce sera directement compatible avec Postgres Vanilla, quoi, sans l'être qu'avec Aurora. Donc, ça, j'ai envie de dire que ça corrobore. Maintenant, peut-être qu'ils sont en train de travailler d'ici au délai qu'ils ont annoncé pour rendre le truc full compatible, parce qu'ils ont peut-être quelques raccourcis dedans, mais bon.
Alors, si on parle de l'impact,
c'est intéressant de voir quand ça sort, quoi.
L'impact que ça a, c'est que toutes les boîtes qui aujourd'hui ont du SQL Server, parce que pas le choix, parce qu'en fait, souvent ta DB, tu la choisis pas, hein, c'est ton application qui te l'impose. C'est pour ça que tu as du Oracle, hein, sinon, si c'était un choix, ça se saurait. Mais les boîtes qui ont du SQL Server en dépendance d'une application, bah, ça remet complètement en question, entre guillemets, leur système de licensing et leur dépendance à Microsoft. Ce qui intéresse AWS là-dedans, c'est qu'une fois que tu as décloisonné ça, bah, ça veut dire que l'application, tu la portes dans le cloud, puisque du coup, bah, tu as pété cette dépendance et eux, ils ont résolu avec le besoin de ne pas avoir de payer Microsoft sur des licences.
Surtout, ils peuvent les provisionner et les scaler sans avoir à payer une licence par instance qui tourne. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et en plus, ils vont changer avec les perfs d'Aurora, c'est-à-dire que Aurora, c'est, enfin, comme ils ont décloisonné entre guillemets la base de données avec un wall distribué en dessous, t'as des très très bonnes perfs dans Aurora. Là, ça veut dire que les applis dépendantes SQL Server vont prendre un gain de perf tout en étant cloudifiable. Je sais pas comment Microsoft prend l'annonce là, mais
tu sens que c'est pour t'aider les croupières à Microsoft, c'est évident.
Ah, clairement, très clairement.
Et donc, ça, c'est le moment où tu expliques ce que c'est qu'un wall distribué, Steven, pour nos auditeurs.
Ce que c'est qu'un wall, tiens, allez.
Ah, bah, c'est simple. Alors, un wall, c'est en fait là où tu vas.
Le write-ahead log.
Le write-ahead log. Toutes les transactions qui arrivent dans un système de fichiers, une base de données, etc., vont être consignées à un endroit avant d'être écrites sur vraiment ce qui permet de faire fonctionner la DB. Pourquoi est-ce qu'on vient les consigner ? Bah, c'est un log, c'est-à-dire qu'en fait, on vient dire voilà ce qu'on a pris, etc. L'objectif de ce wall, c'est qu'en cas de panne, de crash, de trucs, de machin, on peut relire ce fichier-là pour venir rattraper le point, entre guillemets, d'étape où on s'était dit « Ok, on en était là dans la réplication, ben, relisons le wall jusqu'à tel machin » et du coup, ça participe du process de recovery d'une base de données quand on vient la remonter après un crash. Donc, il faut le voir comme la source de vérité absolue, entre guillemets, si on a une panne ou si on a un incident majeur. C'est ce qu'on appelle le bin log sur MySQL par exemple, et c'est pas forcément un truc qu'on va garder à vie parce que ça dépend en fait de combien de temps on veut être capable de réparer les choses ou de relire les choses. Donc ça, c'était le wall local, mais en fait il y a des moyens de faire ça de façon un peu plus élastique et distribuée. Et on va peut-être pas rentrer dans le détail sur le système distribué de log, mais il y a des systèmes comme Kafka, comme Pulsar, qui permettent eux justement d'avoir cette logique séquentielle d'écriture et entre guillemets immuable, mais avec une logique plus scalable, plus que distribuée. La particularité d'Aurora, c'est qu'ils se sont dit, ok, il y a le wall, mais généralement, tu as le wall et la DB, c'est-à-dire et comment est-ce que tu fais les écritures, les index, etc., et comment tu stockes la donnée. Et eux, ils sont partis du principe qu'en fait, dans Aurora 1, ils allaient prendre le wall, et le wall distribué, ben, ça allait devenir la DB. Et ça, c'est plutôt smart, parce qu'en fait, ça permet de dire, ben, on ne va pas dupliquer, on va aller beaucoup plus vite dans les écritures, parce qu'en fait, quand tu as écrit ton wall, ben, tu as écrit tes données. Donc tu peux acquitter au-dessus, et du coup, ça veut dire qu'en termes transactionnels, ben, tu fais plus de TPS et c'est meilleur. L'astuce qu'ils ont derrière, c'est que quand ils ont écrit le wall, en fait, ils viennent réinjecter, reconstruire les pages de l'ADB et des index, un peu à chaud, qu'ils viennent injecter dans le moteur derrière. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Et il y a un papier, d'ailleurs, sur Aurora, hein, qui décrit ça, si jamais ça vous intéresse. On mettra peut-être dans les commentaires, hein, dans les descriptions. J'espère que ça répond à ta question sans aller trop loin.
C'est très bien. C'est très bien.
Très, très bien. Et donc le wall log, en fait, il sert donc à l'écriture, mais aussi à la réplication, c'est ce qu'on disait aussi. Là, on parle de répliquer le wall log, mais en fait, la plupart des systèmes de réplication de Postgres se basent justement sur le fait d'ingérer des entrées de wall log d'autres réplicas pour les intégrer dans le nœud local, quoi.
Yep. Right. Arnaud, tu avais une question, je crois, ou un truc à dire.
Non, j'ai plus.
Écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, on va en profiter pour switcher du wall Aurora au wall Pulsar, et pour parler de Pulsar, parce qu'apparemment, Steven, tu as des informations secrètes.
Oh là là, tellement. Après le people, on arrive dans. on va parler de Pulsar de manière un peu plus large, c'est-à-dire que Pulsar, si vous aviez suivi, c'était la techno qui avait été entre guillemets, je sais plus si Twitter était dans la boucle aussi, il me semble que Twitter, en fait il y a eu Twitter et Yahoo qui à un moment donné se sont dit tiens, on fait un peu la même chose, là il y avait Distributed Log côté Twitter, il y avait Bookkeeper et je crois que c'était peut-être Pulsar, enfin à un moment ils se sont parlé puis ils se sont dit on fait un peu la même chose, on le ferait pas ensemble, et ça a amené Pulsar. Et depuis, en fait, c'est un soft qui a un engouement assez incroyable, notamment en Asie, où tous les gros Alibaba, Tencent, qui ont des volumes de dingue en transactions, etc., en fait, l'utilisent pour leur système de messaging. Ça a été racheté, il y a une boîte qui était une start-up qui était faite par les committeurs sur le projet et qui s'appelait Streamlio. Et ça a été racheté par Splunk il y a quelques mois. Et depuis, on voit en fait des intégrations natives Pulsar dans beaucoup, beaucoup de soft. Donc l'écosystème est vraiment grandissant, que ce soit Debezium, que ce soit Kafka Connect, je ne sais pas trop. Mais donc là, aujourd'hui, Pulsar vient d'être intégré dans un outil qui s'appelle Vector.dev. Peut-être que vous allez juste en parler un peu après, parce que je crois
on a parlé la semaine dernière.
Vous en avez parlé avec
Canard, qui travaille beaucoup sur Vector.
C'est le message à caractère informatique de retard que j'ai. Zut. Mais alors, du coup, dans ce qui est croustillant, qu'est-ce qui est croustillant ? C'est que, en fait, il y a une certaine boîte sur la place. Je ne veux pas dire qui, qui fait de l'implémentation NoSQL basée sur DynamoDB.
Bitable.
Vous l'avez ou pas? Non,
non, je vois pas.
Bon, en gros, c'est une boîte qui. Oracle. Attends, c'était Oracle.
Qu'est-ce que ça peut donc bien être? Voilà,
c'est ça. Ouais.
Donc, en gros, il y a une boîte qui bosse sur Cassandra, pas mal, et qui là commence à construire sa stratégie streaming et qui vient de racheter une boîte qui s'appelait Kafkaesque. Et qui a été renommé en casque, c'est un peu plus politiquement correct quand même. parce que kafkaesque, bon.
C'est moins kafkaïen, ouais.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont en train vraiment d'élargir leur offre. J'ai pas envie de dire transposer le modèle, mais ils considèrent que le streaming, c'est vraiment très important dans les années qui vont à venir. C'est vraiment un truc qui va structurer les pipes d'ingestion, etc. Ce qui, quelque part, s'entend et ce qu'on se prend, c'est-à-dire qu'on a accéléré les stratégies côté base de données avec des bases de données plus adaptées à ce qu'on voulait faire en fonction des besoins. En fait, l'étape d'après, c'est quoi? C'est de se dire, bah, ok, mais est-ce que maintenant on peut pas aller faire du traitement un peu plus temps réel basé là-dessus. Et c'est en ça que Kafka a été une techno qui a un peu montré le chemin là-dessus. Et Pulsar prend le relais parce qu'il permet d'aller plus loin que Kafka. C'est pas gratuit, hein, on en a peut-être déjà parlé, mais Kafka a des avantages, Pulsar a d'autres avantages. À la limite, chacun prend ce qui lui va. Et je pense que, enfin, nous, en tout cas, on adore les deux technos. Elles correspondent à deux besoins, et je pense que chez vous, c'est un peu pareil. Mais là, ce que ça pose comme question, c'est effectivement la stratégie streaming adossée à une stratégie base de données, NoSQL, etc. Et comment les deux vont fonctionner ensemble. Il y a sans doute un peu de face qui va s'ajouter par-dessus. Donc, on en saura sans doute plus dans les mois à venir.
Ouais, la notion de pouvoir lancer des fonctions arbitrairement quand des messages arrivent, bon, bah, ça ressemble à du FAS, clairement. Et c'est vrai que Pulsar l'avait nativement, et je ne crois pas que Kafka avait ce système de fonctions nativement.
Et bah, disons que tu as tellement moins de flexibilité sur tes topics pour faire du, entre guillemets, du topic as a service, que du coup, scinder, enfin, Kafka a toujours été plus orienté gros topic, grosses données dedans, et il le fait très bien. Mais quand tu as besoin de beaucoup de flexibilité et d'avoir un topic par contexte, par tenante, par ce que tu veux, par application, bah là, Pulsar répond beaucoup mieux à la problématique. Ouais.
Ouais, si on veut splitter, enfin, expliquer très rapidement la différence entre les deux, c'est globalement la notion de topic virtuel de Pulsar qui permet un usage vraiment différent à celui de Kafka. Parce que dans Kafka, quand tu crées un topic, ça alloue un certain nombre de ressources. Du coup, c'est pas possible d'avoir autant de topics que tu pourrais avoir avec une notion de topic virtuel comme Pulsar.
Ça me fait penser qu'on n'a pas forcément défini ce qu'était Pulsar. Mais, mais du coup, Pulsar, c'est quoi? Bah, c'est une solution de messaging, mais qui, si on peut évoquer Kafka, se différencie dans cette façon que, d'un point de vue utilisateur, elle unifie entre guillemets le streaming et le PubSub. C'est-à-dire que c'est deux façons de consommer la donnée de façon différente. Donc, il y a une API unifiée d'un point de vue utilisateur là-dessus. Mais d'un point de vue infrastructure, elle décorrèle également la partie métier du messaging, qui est Pulsar, le composant Pulsar.
De la persistance.
Et de la persistance, qui est un composant dédié, qui est Apache Bookkeeper, et qui du coup permet de ne plus avoir la dépendance qu'avait Kafka sur sa rétention au sein des topics, et qui permet d'envisager des topics à rétention quasi illimitée. Quoi.
Ouais. Pour ceux qui connaissent Zookeeper, en fait, il y a Zookeeper qui s'occupe de la partie distribution, justement, de la partie API unifiée, et Bookkeeper qui est plus sur la partie, justement, distribution du storage, en caricature, en grosse maille. Je dis pas trop de bêtises ?
Non, c'est ça.
Okay. C'est ça. Je sais pas où ils en font d'ailleurs Kafka sur leur rewrite pour se passer de Zookeeper, mais...
Bah, c'est un truc qui fonctionne, non?
Ouais, je crois que c'est le cas dans la dernière release, mais je sais pas si elle est sortie, j'avoue que j'ai pas suivi récemment. Mais, et donc, ce que tu trouvais croustillant dans l'histoire, par rapport à DataStax, en l'occurrence, c'était le fait que, justement, ils étaient partis direction Kafka. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, justement, c'est que quand tu regardes Cassandra en particulier, ça a quand même une structure qui se prête très bien à ce que tu décrivais dans les qualités de Pulsar, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plutôt pas pour de l'ingestion massive et plutôt pour des choses à contexte variable et en très grande quantité, si tu veux. Donc, non, c'était pas ça que tu trouvais croustillant. J'ai loupé le truc croustillant.
C'est le fait d'avoir un écosystème qui se consolide, entre guillemets, et en fait, on voit que Pulsar, en ce moment, c'est un truc de dingue, quoi. Il y a un engouement. Aujourd'hui, tu fais une boîte sur Pulsar, en quelques mois, tu l'as vendue, quoi.
C'est,
je vous laisse, j'ai un truc à faire.
On en a parlé, mais on avait effectivement parlé de la levée de fonds des boîtes Pulsar qui était ouf. Enfin, c'était des montants qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Ouais, gros engouement sur Pulsar.
Alors, je pense qu'il va y avoir un adaptateur MySQL bientôt dessus. MSSQL dessus.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, coupler des autres streaming à une notion de base de données et pouvoir requêter ce que tu streams avec du SQL. De toute façon, tu dis ça à moitié en rigolant, mais.
Non, voilà, non, c'est un Graal pour tout le monde, ça.
Kafka l'a fait, avec SQL, ça, je sais pas ce qu'il y a dans Pulsar pour faire ça, mais j'imagine que faut brancher un truc de l'écosystème Apache, donc du Presto ou un truc dans ce goût-là pour faire du SQL dessus.
Bah, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que Alexandre en parlait la semaine dernière, non?
Tu peux faire du Presto sur Pulsar. Ouais. Ouais.
C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, nous, je crois, dans certains.
Ce qui peut manquer aujourd'hui pour être un peu pertinent entre guillemets dans cet usage-là, c'est de pouvoir indexer entre guillemets tes segments derrière sur une notion de temps. C'est-à-dire que sinon, en fait, Presto lui va dire OK, bah je vais scanner ton topic. T'as peut-être envie de lui dire ouais, mais attends, scanne-moi, je vais peut-être le ton une heure.
Calme-toi, ouais, c'est ça.
Et en fait, t'as pas cette correspondance offset, c'est-à-dire où est-ce que t'en es et temps. Donc, il faut juste créer cette correspondance, ce qui te permettra de dire bah voilà, scanne-moi jusqu'à je sais pas une journée de données et puis et du coup tu viens requêter ça en SQL quoi.
Right. En parlant de requêtes, parlons de système de requêtage unifié et parlons de Erlenmeyer. Je sais pas si j'ai vendu Erlenmeyer tu vois en trois mots. Si c'est un système de requêtage unifié ou autre chose, mais
ouais, c'est un proxy qu'on a fait pour abstraire entre guillemets la TSDB chez nous et qui permet du coup de un peu comme McDo, venez comme vous êtes.
Ouais. TSDB,
Time Series DB.
Ah ouais.
Base de données Time Series.
Et en fait, alors, on a une TSDB qui s'appelle Warp10 chez nous et qui, du coup, expose deux types de langages qui sont WarScript ou Flows, plus des API pour juste consommer et venir écrire. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, bah, ce serait pas mal en fait que les gens qui viennent chez OVH, ils viennent avec une expérience qui peut être Influx, qui peut être Graphite, qui peut être Prom, qui peut être OpenTSDB, n'importe. Et en fait, on s'est dit, bah, pourquoi pas implémenter ces protos au-dessus de Warp10 et abstraire ce truc-là pour qu'en fait les gens puissent avoir l'expérience avec laquelle ils sont, ils ont une accoutumance ou ils sont habitués. Et du coup, on a commencé avec un proto qui était OpenTSDB, puis un autre. Et aujourd'hui, on supporte Graphite, Prom, OpenTSDB, Influx, QL, etc., etc. Et en fait, là, on a avec Aurélien Hébert, on s'est prêté au jeu de Promlabs. Promlabs, c'est un outil qui permet de vérifier la compatibilité d'une implémentation Prometheus. Et alors, on s'est dit, OK, bon, on va faire l'exercice et on va regarder. Alors, on a dû patcher 2-3 trucs, mais au global, on arrive aujourd'hui à une compat qui est d'à peu près 92%. Ce qui est plutôt très bien, ce qui nous manque, c'est 2-3 opérateurs dans Warp derrière, et après, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour une raison qui est simple, c'est que Prometheus fait de la magie, en fait, et que quand tu lui demandes un truc, des fois, il va aller faire des choses, et en fait, aujourd'hui, on a reverse un peu le machin, et on s'est dit, bon, ça pose une question, c'est que si on veut être à plus de compatibilité que 92%, il faut mentir dans ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu exprimes une query, on va aller faire ce que fait Prom, mais c'est-à-dire on ne va pas faire ce que l'utilisateur a demandé. Il y a des issues sur GitHub sur le sujet où les mecs disent « Oui, bon, ce serait quand même bien qu'on s'attelle à corriger un peu la façon dont on a implémenté le rate ou ce genre de truc. » Parce qu'en fait, Prom, tu lui demandes de faire un rate sur 15 minutes, il va pas prendre 15 minutes, faire le rate et te le renvoyer. Il va prendre plus large et il va du coup te changer les valeurs d'approximation de certains trucs, etc.
En fait, on peut implémenter les bugs, du coup, entre guillemets.
C'est tout le dilemme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a implémenté c'est pas des bugs, c'est des comportements de prom qu'on
sur les
juge.
Problèmes des compats, hein.
Ouais. Qu'on juge effectivement un peu sous-optimaux. Pour aller plus loin, ça nous pose vraiment plus de problèmes intellectuels. On se dit non, mais là, enfin, ça ne sert à rien. Enfin, ça a aucun sens.
Après, si on veut présenter les choses de manière moins subjective, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont fait de la magie, mais qu'ils n'ont pas fait la même que vous, quoi, en fait.
Ouais.
C'est ça.
Imaginez que vous avez aucun raccourci aussi, quoi, tu vois. Il y en a forcément.
On a aussi découvert des trucs hein, sur lesquels on avait assumé des choses. Enfin, on était parti avec des a priori. On s'était dit, bah tiens, Prom, quand il te renvoie le truc, il te dit voilà, j'ai échantillonné comme ça. Et en fait, on s'est dit, OK, ben, du coup, on va venir lire la donnée, on va l'échantillonner et on va appliquer les méthodes, les fonctions du query. C'est-à-dire, si tu mets un rate, tu fais un rate. Si tu fais un group by, tu fais ça, etc. Et on se dit, putain, mais c'est bizarre. Il y a quand même un ordre de grandeur sur les différences sur les données. Et en fait, en fait, l'échantillonnage, il est fait à la fin. Il n'est pas fait à la lecture des données sur lesquelles tu échantillonnes. Il te lit les données. Il te fait le calcul et après il échantillonne juste pour te renvoyer le résultat. Ce qui du coup, d'un point de vue base de données, te pose des questions. C'est-à-dire que ça t'empêche de faire du pushdown. Si tu fais la base de données de time series parfaite, qui permettrait de dire, tiens, je viens lire mes données, voire même mes métadonnées, parce que si ce que tu cherches à faire, c'est un min, un max ou un count d'un bucket, si tu as ça dans ta métadonnée, tu n'as même pas besoin de scanner tes données et de le faire. C'est-à-dire que tu peux directement voir l'index de ton chunk et tu prends le truc. Tu es capable déjà, dans ton query planner, d'avoir quasiment la réponse à ton agrégation. Si tu veux aller plus loin dans une base de données un peu ultime de time series et dire, tiens, j'ai mon scanner qui passe et mon agrégation, c'est peut-être la somme, ton scanner devrait pouvoir faire cette agrégation et te renvoyer l'agrégation directement. C'est ce qu'on appelle du pushdown, c'est-à-dire que tu viens prendre une opération et tu l'envoies au plus bas de là où est la donnée pour faire des trucs et tu agrèges ça plus haut. Et ben en fait, le query planner... Ouais.
C'est le planner qui le fait, oui.
Ça t'empêche de le faire, quoi. Et en fait, on a découvert ça. Et du coup, on a corrigé 2-3 trucs. On a 92%. Donc, on trouve que c'est plutôt bien. Donc, si jamais vous utilisez Warten chez vous, ben, prenez Erlen Meyer. Ça vous permet d'avoir une expérience prom à 92%, mais aussi OpenTSDB, Influx, etc.
En fait, cool. Vous avez corrigé prom upstream pour les 8% restants.
Et pour ceux,
c'est très compliqué.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Prom, c'est Prometheus, hein, pour les acronymes.
Ouais. C'est très compliqué. Moi, je sais que ça fait un paquet de temps que je suis un peu dans le domaine de la time series et je suis déjà allé bouffer avec les mecs, je suis déjà discuté avec eux. Je leur ai dit, les gars, vous êtes en train de faire une spec sur qui s'appelle OpenMetrics. Pour OpenMetrics, il y a un moment donné, les gars ont dit non, mais on ne met pas de points dans le truc. Je suis là, pourquoi tu ne mets pas de points dans ta métrique? C'est du TF8, à un moment donné, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Non, parce qu'en fait, comme ça, ça différencie de Graphite. C'est-à-dire que tu te souviens, Graphite, avec le modèle un peu en arbre, qui n'avait pas de label, donc les labels étaient mis dans le nommage, et ça crée une sorte de modèle hiérarchique, mais à plat. En fait, pour forcer les gens à, entre guillemets, sortir de ce modèle-là, ils se sont dit, ben, on interdit les points, comme ça, les gens vont faire ça différemment de Graphite. Je dis, d'accord, mais aujourd'hui, Graphite est mort, tu vois, donc... Quand tu fais une spec, est-ce que tu fais une spec basée sur du dogme que tu as dans Prometheus? Et les mecs, ils sont là, oui, on revient pas là-dessus, parce qu'en plus, ils veulent que la spec calque le modèle Prometheus pour essayer de convertir tous les usages de Prometheus comme un truc IETF derrière. Bon, c'est pas le seul, hein. T'as les doubles côtes dans le machin, enfin, t'as plein de défauts en fait dans Prometheus, et les mecs remettent rien en question. Donc c'est assez fou.
Ça, c'est plus des défauts, c'est des features.
C'est ça.
All right. Nous allons passer au lien suivant, sans transition. Et nous allons parler de Teams, que nous n'utilisons pas pour nous parler et que peut-être nous ne conseillons pas d'utiliser. Mais en général, c'est un peu comme SQL Server. T'as pas toujours le choix. C'est pas un choix qu'on t'offre.
Puis là, en l'occurrence, comme tous les logiciels de communication, c'est surtout en fonction de tes interlocuteurs et est-ce que oui ou non tu peux leur imposer ton moyen de communication à toi.
Et voilà. Et du coup, si vous utilisez Teams, si vous avez installé le client Teams parce que vous l'utilisez au travail ou parce que vous avez dû l'installer, mettez-le à jour immédiatement. C'est quoi, Arnaud, c'est toi qui a...
Ah ouais, je sais plus. Globalement, il y a eu un problème de sécurité qui a été découvert dans l'application desktop de Teams, qui en fait est une XSS qui permet en fait à n'importe qui d'envoyer un message et en fait à trigger du code qui est exécuté sur l'application de la personne, enfin sur oui dans l'application ou dans le système de la personne qui a reçu le message. C'est une remote code execution, donc c'est assez grave. Et pour ajouter à ça, apparemment, c'est d'après la personne qui a trouvé ça, c'est aussi Wormable, c'est-à-dire que bah, tu peux à la suite envoyer un message à toutes les personnes que tu as dans tes contacts, par exemple, donc dans un channel Slack tiers, etc. Et comme, enfin pas Slack, pardon, Teams. Et comme Steam, bah, là aussi, tu peux joindre plusieurs organisations Teams entre elles. Bah, tu peux vraiment émettre en fait un payload à travers tous les utilisateurs qui se.
Pour ainsi dire, viral. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est zéro clic, c'est ça qui aussi qu'il faut noter, c'est qu'il suffit que le message pop, il n'y a pas besoin de cliquer dessus, quoi. C'est ça le truc qui du coup me générait une grosse urgence. Alors, faut noter que les updates sont pour tous les gens qui sont en mode installation avec upgrade automatique. L'update il date quand même, hein. Il a un mois et demi. Bon, l'exploit existait déjà, mais revanche, si vous avez fait une install à la mano qui a pas d'upgrade automatique ou volontairement vous les avez bloqués parce que vous avez pas envie qu'il y ait de data qui envoie machin, bah mettez quand même à jour ou désinstallez-le si vous l'utilisez pas, parce que c'est une ouverture peut vous exposer.
Ouais, c'est assez grave. Mais enfin voilà, après d'autres outils ont déjà eu ce genre de bug aussi, on va pas se mentir. C'est un peu le problème de toute façon des applications, on va dire, dans ce genre de desktop qu'on accède après à tout, qui sont pas.
Ouais, puis pour le coup, il faut dire qu'il y a surtout là où c'est particulièrement intéressant et visible, c'est que ça a eu le vent en poupe et ça a été adopté par énormément de gens qui bossaient beaucoup avec des outils Microsoft en interne et se retrouvaient à bosser dehors et sont allés vers ça comme une espèce d'extension naturelle. Et donc, il y a eu une massification des usages de Teams assez importante quand même dans les 6 derniers mois.
T'as le contexte Covid plus, je pense aussi, quelque part, les côtés commerciaux de Microsoft, qui est le même
qui point n'est pas nouveau. En
fait. Ouais. Quand t'as déjà un pied dans la boîte, t'as déjà le commercial qui est déjà connu, bon, bah, c'est plus facile d'aller vendre des choses.
C'est ça. En tout cas, voilà, mettez à jour.
Nous, on n'utilise pas.
Et si vous êtes intéressé, allez voir dans les show notes, il y a le lien vers le GitHub du gars qui a découvert la vulnérabilité avec les manières de le tester, si vous êtes intéressé par la mécanique et tous les détails.
Right. On reste dans les failles de sécu, avec une nouvelle faille de sécu dans OpenSSL, Arnaud.
Ouais, alors je saurais pas trop l'expliquer globalement, hein, mais ce qui se passe, c'est que si jamais un attaquant a priori sait crafter le message qu'il faut à peu près et contrôle aussi, je crois, le certificat qui est utilisé pour établir la connexion TLS, il sera capable de déclencher un null pointer dereference, globalement essayer d'utiliser une adresse mémoire qui n'existe pas, et ça fera crasher en fait le process qui utilise la librairie OpenSSL. Donc c'est généralement problématique dans tout ce qui est reverse proxy, ce genre de choses, où il peut y avoir du déni de service à cause de ça, puisque le service sera crashé, quoi. Voilà. Donc il faut globalement mettre à jour OpenSSL. La particularité, c'est que les branches OpenSSL 1.0.2 et je ne sais plus l'autre, c'était la 1.0 je crois, ne sont plus maintenues, donc il n'y a que la branche 1.1.1 qui a eu les mises à jour. Donc vous êtes obligé de. Enfin, ce serait bien de mettre à jour OpenSSL 1.1.1. Quoi. Voilà.
Pour ça et pour beaucoup d'autres choses.
Ouais, il y a plein de raisons, forcément. Mais...
Être à jour, c'est pas une mauvaise chose, ouais.
Exactement.
Ok, sans transition, on passe au Apple M1, le nouveau processeur d'Apple. Steven, tu voulais en parler, on en a déjà parlé un tout petit peu quand il est sorti. Et là, on commence à avoir des benches indépendants qui commencent à arriver, qui permettent de tester un peu plus ce processeur dans d'autres conditions que celles que Apple veut présenter, puis qui explique un peu pourquoi en fait le M1 il tabasse globalement.
Le but c'est pas de faire le marketing d'Apple, hein, c'est plutôt le côté un peu technique qui nous intéresse là. Et en fait il y a un gars qui a publié, comment il s'appelle, Eric Engheim, j'espère que je le dis à peu près bien, qui a publié du coup un article effectivement en expliquant pourquoi ils étaient bons et pourquoi ça tabassait comme ça. Et je trouve que l'article a un mérite, c'est que moi je suis pas expert du domaine des CPU et j'y connais même quasi rien, mais en fait le truc est facile à lire, il est hyper bien vulgarisé, c'est très très accessible et du coup ça rend le truc encore plus intéressant. Il y a une fascination derrière, c'est-à-dire que tu dis, mais attends les gars, ils arrivent, on va pas dire que c'est leur premier CPU, parce qu'ils en faisaient déjà pour les iPhones, etc. Et en gros, là, c'est un un gros CPU d'iPhone qu'ils ont mis et ils ont rajouté un peu de soft dessus. Mais tu te dis, c'est quand même leur premier CPU pour un laptop. Mais les gars te sortent quand même une gamme avec et ils te pètent le marché niveau perf, quoi. Donc, c'est Apple, hein. Ils ont les moyens de le faire. Faut qu'on soit clair. Mais c'est pas parce que tu as tout le temps les moyens que tu arrives à bien le faire. Et là, mine de rien, ils ont quand même réussi à bien le faire. C'est-à-dire que tu as des trucs qui ont été genre Rosetta 2, alors on peut en parler, mais c'est la couche... On va parler d'abord de l'histoire de Rosetta.
Alors, Champollion.
Apple, en fait, au tout début, ils avaient des processeurs PowerPC, vous vous souvenez, d'IBM. Et à un moment donné, ils ont changé, ils sont allés vers de l'architecture Intel. À ce moment-là, ils ont dit, on va faire un truc qui permet de faciliter la vie des devs.
La pierre de Rosetta.
C'est ça, et du coup, pour avoir une sorte de correspondance et de traduction par rapport à l'architecture processeur qui était en dessous. Donc, ça permettait d'avoir une transition à peu près en douceur, sauf que la vérité, c'est que sur l'architecture Intel sur laquelle ils étaient passés, les applications qui n'avaient pas migré, elles n'étaient quand même pas super perf. Et là, ils ont repris ce concept-là. Alors, ce n'est pas du tout le même Rosetta. Hein. Ils ont repris le nom, ils ont mis un 2, mais c'est quand même un truc qui n'a rien à voir. Sur lesquels ils ont... essayer de contourner entre guillemets les problématiques d'adressage de mémoire, de choses comme ça, qui sont inhérentes à l'architecture CPU qu'il y a derrière. Et ce qui fait que il y a quand même leur CPU est tellement optimisé spécifiquement pour des usages qui correspondent à ce qu'ils cherchent à faire, que quelque part l'efficacité qu'ils en tirent permet même avec cette couche d'émulation d'avoir des fois des perfs qui sont plus performante qu'une appli Intel sur un processeur Intel. C'est pas le cas de toutes les applis, mais c'est quand même le cas de certaines applis. Et ce qui quand même, tu dis, waouh quoi. Enfin, ils arrivent à faire une transition à peu près en douceur. Alors, il y a sans doute des choses qui doivent bloquer, etc. Mais...
Bah écoute, je trouve que les choses ont l'air de s'aligner quand même relativement vite, hein, parce que ça fait quelques semaines et il y a beaucoup de softs qui ont la compat. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils avaient fourni les kits et tout aux boîtes très longtemps avant. Ouais. Mais en tout cas, c'est, même d'un point de vue release et tout ça, c'est vachement bien géré parce que ça vient assez vite. Il y a plein de trucs où les gens disent c'est bloquant. Et machin, puis en fait, finalement, quelques semaines après, tu vois le soft qui sort. Finalement, tu te dis, ah, finalement, je vais peut-être y aller.
Non, puis ça reste une de leurs forces de traction aussi. C'est-à-dire que tu regardes les suites Adobe ou ce genre de trucs, c'est jamais arrivé en natif sur Linux. Tu vois, les mecs n'ont jamais fait l'effort. Et là, tu as une nouvelle archi qui arrive, bam, le truc est déjà dispo. Ouais. C'est Kevin qui me faisait remarquer ça, mais c'est vraiment...
Après, si t'avais 3-4 machines cibles sur Linux, je pense que ça pourrait aller un peu plus vite aussi.
Mais là ça pose une vraie question, c'est-à-dire que la vraie réussite qu'ils ont, c'est l'intégration verticale. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ça? C'est que, alors, comme je disais, quand ils ont spécifié les CPU, hein. C'est qu'ils ont fait un cœur très rapide, un cœur très économe. Dans la puce qu'ils ont, ils ont aussi des puces de traitement pour l'audio, une puce pour la vidéo, une puce pour un truc, une puce pour un autre, et ils ont des micro-cores comme ça dans leur SoC. SoC, c'est System on Chip, c'est-à-dire c'est un ordinateur en fait qu'on met dans une puce et qui a plusieurs rôles. Mais comme ils ont des choses très ciblées, bah, chaque chose qui doit être faite est au final assez rapide. Ouais. Et en fait, ils arrivent à le faire et à bien le faire parce qu'ils maîtrisent la couche soft au-dessus et que dans l'intégration verticale de tout ça, bah, tu arrives à un truc qui est hyper cohérent, quoi.
Bah, ils maîtrisent le soft et l'univers dans lequel ça s'intègre au niveau hardware aussi, c'est-à-dire que toute la carte, tout est optimisé pour bien communiquer, que tout soit au bon endroit et ainsi de suite, quoi. Donc même physiquement ça optimise, hein.
Ça là, c'est ça qu'il disait, je crois. Il disait que pour la partie GPU, je crois, c'est qu'il partageait la mémoire entre le CPU et le GPU pour que ça aille plus vite.
Parce que physiquement, ils ont agencé ça avec une proximité.
Alors que d'ordinaire, en général, c'est le CPU qui copie la mémoire qu'ils vont envoyer au GPU dans la mémoire du GPU, enfin, un truc comme ça, quoi.
Et, ouais, ça, c'est même bon. Quand tu as un APU, en fait, la mémoire est déjà partagée. En fait, le GPU, le CPU ouais. Partagent la même mémoire, mais en fait, chacun utilise une zone de mémoire pour lui.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Et du coup, il copie, même si c'est dans la même mémoire, il y a quand même une recopie de données qui est faite. Et l'article parle très bien de tout ça et il dit bien qu'en fait c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que la mémoire pour un GPU doit être orienté entre guillemets gros batch, tu vois, tu traites très massivement parallèle, là où un CPU va être beaucoup plus atomique dans son traitement, et du coup ça, c'est un design de mémoire normalement qui fait que, sauf que là l'intelligence qui a été mise dans la mise en œuvre de ce truc là fait que à la fin ça fait le job quoi.
Et puis la couche OS, ça fait longtemps aussi qu'elle supporte cette, le fait de déférer des traitements graphiques soit sur le CPU, soit sur la carte en fonction de l'optimisation, de la consommation que tu veux. Quoi. Donc c'est un tout, en effet, comme tu disais, cette intégration verticale. Quoi.
Ouais. Donc moi, je suis pas un Apple fanboy, tu vois, mais quand je vois ça, je me dis, on arrive à un niveau d'optimisation de la stack, là, qu'on peut penser problématique, parce qu'effectivement, ça t'enferme dans un écosystème et c'est très dur entre guillemets de faire de la composabilité là-dedans. C'est-à-dire que là, autant avant il y avait des Hackintosh où sur de l'archi Intel tu mettais un Linux dessus, ça marchait à peu près au driver près. Ça pose vraiment des questions sur effectivement ce que tu vas pouvoir faire. Mais en même temps, tu te mets à la place d'Apple, eux ils cherchent à créer l'expérience client. Ils s'en fichent en fait que leur truc soit installé avec du Linux dessus, c'est pas leur but. Donc c'est très cohérent dans ce qu'ils cherchent à faire. La question que ça pose, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose chez la concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des CPU ARM etc, mais est-ce qu'un Linux dessus va réussir à en tirer autant parti, ou est-ce que même Windows va réussir à le faire? Ça c'est beaucoup moins sûr.
Pour compiler de son façon, kernel
voilà. De façon méta, quand tu tasteras à offrir la compat, tu tasteras un certain nombre de complexités parce que tu dois offrir la compat, et si tu fais des choses très simples, très contrôlées, forcément, tu peux prendre des raccourcis, tu peux faire le design qui t'arrange, sans les contraintes de compat. Et vous allez voir que c'est une bête de transition, parce qu'on va parler de Kubernetes. Bim, qui offre une compat à partout, et à tout le monde, qui essaye de faire plaisir à tout le monde, et qui, du coup, arrive avec son lot de complexité. Et une chose qui est intéressante avec Kubernetes, vous avez peut-être vu passer ça récemment, dans les nouvelles révises. Docker a été déprécié, et là tu vois c'est oh mon dieu, Docker a été déprécié, et en fait non, tout va bien, détendez-vous, Docker a pas été il y a toujours du Docker dans du Kubernetes si vous voulez.
Alors il y a des parties de Docker, ouais, c'est ça.
Il y a toujours des parties de Docker.
Vous pouvez faire des conteneurs Docker dans Kubernetes. C'est ça.
Exactement.
C'est ça.
Docker avait splitté tout un tas de choses. Pendant un moment Docker c'était juste Docker, c'était tout, et maintenant il y a plein de couches. Là, en l'occurrence, c'est Mobi, je crois, la couche qui est restée, et la couche de compat entre Mobi et Cube, qui était Docker,
ouais, c'est ça, ouais.
A été sortie.
En fait, attends, juste historiquement, en fait, c'est ça, t'avais Docker qui était un gros binaire qui faisait à peu près tout, puis à un moment, ils ont split entre, en effet, Mobi, qui est super haut, après, t'as ContainerD en dessous qui s'occupe, je crois, de la gestion un peu au niveau des containers, et après, t'as RunC encore en dessous qui s'occupe de la gestion brute des containers, je crois. Ou qui te permet de démarrer des containers. Enfin, ils avaient tout split comme ça il y a 3-4 ans. Mm-hmm. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'on arrive là aujourd'hui. Quoi.
Yep. Et donc, la couche la plus basse, c'est celle qui fait tourner les conteneurs dans un cube, n'était pas compatible avec la CRI, dont je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme là sur le moment. Container Runtime, mais le I, je ne sais plus.
Interface,
tout simplement, ouais. Et donc qui elle est implémentée, il y a plusieurs autres implémentations hein, qui existent, et donc elle l'était pas, et donc il y avait en place dans Kubernetes un truc qui s'appelait Docker Shim pour faire la compat, encore une couche de compat, c'est la journée de la couche de compat, et une couche de compatibilité entre Docker, et c'est ça qu'ils vont virer en fait, donc, cette compatibilité, ça veut dire qu'on peut plus utiliser le runtime de Docker pour faire tourner les conteneurs. Par contre, si les conteneurs sont compatibles CRI, ce qui est faisable d'ailleurs avec les outils Docker, les transformer pour ça, ils peuvent tourner dans Kubernetes. Donc, différence de runtime.
Il y a aussi une des raisons, c'était que bah, en fait, Docker apporte plein de features qui ne sont pas spécialement nécessaires dans Kube, et du coup, ils voulaient...
C'est surtout un outil pour les développeurs, hein, donc, au départ.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais là, ils disaient qu'ils voulaient enlever la partie user experience...
À la découpler, enfin, quoi.
Ça ne sert à rien dans le cube.
C'est toujours bague, quand même.
Oui, je sais bien. Après, je ne vais pas rentrer dans du trolling, mais en tout cas, ils présentaient autrement, si ce n'est pas le cas.
Ce que je veux dire, c'est que ça ne viendrait quand même pas à l'idée de mettre du Docker en prod. Enfin, on est d'accord. Toi.
Wow.
Voilà. Je ne voulais pas rentrer dans la facilité de ces trolling.
Non, je suis d'accord. Est-ce que vous avez vu l'article qui dit que, quand même, c'est la deuxième mort de Docker?
Ouais, ouais, c'est un peu rude.
C'est pas faux. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Il y a une news après qui...
Ah, pardon. Cube est, né, en fait, pour tuer Docker. C'est...
Pour tuer Swarm, en tout cas, au moins.
Ouais.
Ouais, mais en gros, pour l'effacer progressivement. Donc, quelque part, c'était très prévisible.
C'est une bataille qui a été perdue depuis un moment déjà. Et voilà, c'est là. C'est ça. On vous met deux liens. On met un tweet qui explique un peu ce qui s'est passé. Et surtout, on vous met des explications avec des belles sketch notes d'Auré Livache.
Ouais, super article.
Vous pouvez vous tenir au courant un peu. Elle a toute une série d'articles sur Docker qui est top. On enchaîne avec Docker 20.10, qui est donc la nouvelle release de Docker, qui est avec plusieurs features majeures.
Hachement intéressantes, oui.
Hachement intéressantes, indeed. Et donc, non, Docker n'est pas mort, ils sont bien vivants, ils font plein de trucs très très cool.
Alors là, les trucs très cool, on en parlait, ils sont, en tout cas sur ceux qui mettent le plus en avant, ils sont beaucoup, justement, sur cette couche supérieure qui est la couche expérience utilisateur. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas assez regardé les détails des release notes, il y a sans doute d'autres choses, mais en tout cas c'est beaucoup là-dessus et c'est celle qui moi m'intéresse beaucoup aussi. Ça fait un paquet de temps que moi à l'usage j'utilise souvent Podman parce que j'aime pas forcément avoir un truc qui tourne dans un daemon root et Podman permet de faire du rootless, c'est-à-dire de pas être root, de lancer le conteneur dans sa sandbox utilisateur. Et en fait, c'est ce que fait Docker en version 20 aussi, plus en plus une compatibilité avec les cgroup V2, sur lesquels on s'est déjà étendu, je crois, dans d'autres épisodes, donc c'est peut-être pas c'est un peu compliqué de détailler ça à ce niveau de l'épisode d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est relativement important pour la manière dont ça s'intègre avec d'autres soft autour. En interne, on a déjà eu des discussions là-dessus, sur systemd and spawn, des trucs comme ça qui sont plutôt first citizen là-dessus, ou Podman aussi qui est first citizen là-dessus. En fait, c'est les métadonnées que le conteneur peut utiliser et le fait qu'il soit vraiment dans un namespace dédié à lui et qu'il tape jamais dans le namespace du host dans lequel il tourne. Et ça, ça permet de le faire et de gérer aussi les capacités qui lui sont allouées de manière beaucoup plus fine, CPU et co. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui, comme moi, ont déjà utilisé du Fedora ou d'autres OS avec Genome, il y a le support d'Overlay FS qui fait que aussi c'est performant avec un file system, sans avoir à faire des montages spécifiques et de les monter en route pour que ça fonctionne, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment le rootless qui est mis en avant et facilité par les cgroup V2. Et ça, c'est plutôt bien. Ça fait un moment que ça venait. Je sais pas si ça les a aiguillonnés, ce mouvement qui les a aiguillonnés à diversifier, mais en tout cas, c'est pas mal.
Ça a été rendu possible grâce au support de ces groupes V2 et c'est ça qui est...
Et à noter que le produit s'appelle bien Docker 2010 et pas Mirantis 2010.
Tu parlais de CentOS et nous avons pensé à parler de CentOS. Ah, tu avais peut-être un petit
Fedora. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a même pas parlé de... Ouais, il a pas parlé de CentOS, c'est pas de Fedora.
Je parlais de Fedora, mais chez toi, t'as fait une association d'idées, en fait.
Ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai besoin d'idées pour faire des transitions. C'est moche. J'ai lu l'article parce qu'en fait, on a parlé de 3-4 trucs, mais en fait, il y a plein d'autres features. Allez jeter un œil. Mais on va passer au drame open source de la semaine. Il y a quand même un des articles qu'on vous met avec le CentOS Project Suicide avec une corde, tu vois, comme infographie. Genre, c'est vraiment...
C'est qu'un échantillon, parce que des articles comme ça, depuis ce matin, j'en ai vu au moins 4 ou 5 du même acabit. C'est la mort, c'est foutu.
Petit jingle mortuaire.
Alors, spoiler alert, c'est peut-être un petit peu dramatisé, hein, mais bon.
Ça l'est, je pense.
Ouais. Et donc, je peux le reprendre celui-là ou c'est... Ouais. Donc, CentOS qui était en fait, pour ceux qui n'utilisent pas, il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent, mais globalement, c'est assez équivalent à ce que fournit Red Hat Enterprise Linux, à l'exception près qu'on n'a pas le support Enterprise et le patching en premier niveau, mais globalement, c'est très hautement compatible. Donc, si vous compilez des packages RPM ou des choses sur l'un, ça marche sur l'autre en général. Vous pouvez utiliser les repos de l'un sur l'autre et c'est extrêmement similaire. Et donc, CentOS était jusque-là basé sur la branche stable de Red Hat, donc en upstream. Et maintenant, va être basé finalement sur les branches instables de Red Hat, c'est-à-dire les branches de dev. Donc, de prime abord, ça, pour les gens qui aiment bien prendre CentOS pour avoir de la stabilité pendant 7 ans, je laisse comme exercice libre le fait de savoir si c'est une bonne idée, mais d'avoir une glibc d'il y a 7 ans patchée, mais par exemple, entre autres choses. ça peut créer un vent de panique entre guillemets, mais en pratique, ça reste intéressant parce que finalement, il fallait toujours attendre avant d'avoir des nouvelles features dans CentOS. Après que Red Hat les ait eues, un certain délai probatoire et tout ça, là en fait, ça les aura avant que Red Hat les ait. Et finalement, le cycle, quand on regarde, il va pas être non plus de fou. Le vrai changement, il va être plutôt sur le cycle de vie, qui est que maintenant. Donc là, pour CentOS 8, ça va pas trop changer, je pense. Ça va changer dans le sens où le support sera moins long. En revanche, ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir CentOS 9, ils vont arrêter de contribuer sur CentOS Stream 8. Donc c'est ça le vrai changement qui sera pas maintenant, mais après. c'est que quand CentOS 9 commencera, c'est-à-dire quand ils commenceront à vraiment développer sur la branche Red Hat 9 et à la publier, CentOS 9 sera la branche de dev. Et donc CentOS 8 ne recevra plus de patching sur le papier. Il faudra voir comment ça s'affine. Hein. Ils auront peut-être des...
Enfin, il faut le rappeler, mais en fait, CentOS, une de ses promesses, c'était d'avoir un support de 10 ans de chaque branche majeure du système. Donc là, par exemple, CentOS 7, c'est sorti en 2014, donc ça s'arrête en 2024. CentOS 8 est sorti en 2019, c'était censé s'arrêter en 2029.
Mais non.
Et avec ce changement, qui donc va forcer le passage à CentOS 8 Stream, ça s'arrête en 2021.
Donc, dans 8 ans de... Voilà.
Mais moi, je trouve que c'est quand même un drame, hein, parce qu'en fait, c'est OK, on est d'accord que c'est pas bien d'avoir un OS vieux, etc., mais t'as énormément de boîtes qui étaient sur CentOS. Pourquoi ? C'était le côté rassurant de Red Hat, mais post-release, c'est-à-dire que t'as une release, si jamais t'as besoin d'un contrat de support, tu peux quand même, en gros, tu changes ton repos, t'arrives, c'est une Red Hat, quoi. C'était même une des stratégies quand tu avais des éditeurs qui venaient dans les boîtes ou qui disent nous on fournit le support que Red Hat, hop, tu changeais le label, tu mettais Red Hat et ok, bah, on fait le job. Aujourd'hui, ces boîtes-là qui ont tout leur parc CentOS pour une vision stable des choses et une vision post-Red Hat rassurante, c'est-à-dire en mode DSI, je veux pas payer, mais quand même c'est un peu rassurant. aujourd'hui, celle-là, je trouve qu'elle se retrouve dans une situation un peu délicate. C'est-à-dire que CentOS Stream, c'est pas ce qu'elles vont chercher à avoir. Donc la question, c'est est-ce que tu bascules sur un SLES ou est-ce que. Quelle va être la suite en fait de CentOS ? Est-ce que. Parce que là, je viens de revoir un truc, c'est que je m'étais dit, tiens, avant CentOS, il y avait quoi ? T'avais Fermi Linux et Scientific Linux, qui était fait par le CERN. Et en fait, ça a assez vieilli, jusqu'en 2019, où les mecs disent qu'en fait, le 22 avril 2019, le projet a annoncé la fin des développements de Scientific Linux. Il n'y aura pas de version 8, mais désormais une collaboration à CentOS.
Ah oui, ouais.
Du coup, est-ce que ça va renaître derrière Scientific Linux, qui était poussé par le CERN, qui peut avoir la capacité de... mettre un peu d'effort dans cette
moi je trouve honnêtement, au-delà de la question que tu poses qui est tout à fait légitime des boîtes qui avaient pris ça comme un espèce de truc un peu pépère tranquille qui fait que t'es un peu t'as une espèce de ceinture de sécurité, en revanche c'est vachement positif pour la contribution parce qu'en effet on va avoir quelque chose d'un peu plus dynamique parce que là on avait quelque chose qui est globalement récupéré le boilerplate des patchings qui arrivait sur une release qui avait 8 ans quoi, c'est-à-dire que t'avais péniblement un petit patch de la page 2.4 de temps en temps, t'avais quelques trucs dans les software collection de Red Hat, puis sinon tu tapais dans Eppel, et Eppel, par contre, pour le coup, c'est mis à jour tout le temps, tu vois, c'est pas un truc stable à proprement parler. Donc finalement, ce qui bougeait vraiment, ou ce qui permettait vraiment d'installer des choses, souvent, il fallait mettre Eppel sur un CentOS pour que ça fonctionne, donc c'est un peu...
Ah mais je suis d'accord avec toi.
Après, ça se justifie parfaitement, je pense que pour eux, de maintenir à la fois CentOS 6, 7, 8, bientôt 9, et ainsi de suite, en parallèle du reste,
On est d'accord que ça va assainir, entre guillemets, le monde le marché de la distribution Linux et sans doute ce qu'il y a dans les boîtes, mais est-ce qu'elles sont prêtes à ça, quoi ?
Ça c'est plus grave. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vont évoluer les distros qui en dépendent, en fait. Les distros, c'est un gros mot, les chimes de distros qui sont par au-dessus. C'est-à-dire, là, je pense en particulier aux deux plus connus qui sont Oracle Linux, qui est un chim par au-dessus de Red Hat ou de CentOS, et Amazon Linux, qui est aussi un chim par au-dessus de ça. Donc, est-ce qu'ils vont se caler sur Stream, ce qui est possible ? Est-ce qu'ils vont y contribuer ? Est-ce qu'ils vont.
Non, c'est intéressant à regarder, quoi. Oracle Univ justement a fait un.
Ouais, ils ont fait une petite annonce vampirisante.
Au tout début, moi, je pensais que c'était un troll en fait. J'avais pas compris que c'était vraiment CentOS qui était voilà, impacté.
Bah, moi aussi, je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça. Et quand j'ai vu l'annonce après, j'ai dit ah bah voilà, c'est ouais, ça. Voilà.
Mais du coup, ils ont mis en place un espèce de script qui permet de migrer ton CentOS vers leur propre support. Mais en fait, comme Red Hat va au final garder de toute façon open source les packages, si ça se trouve, ils vont juste refaire exactement la même chose. Ils vont juste, une fois qu'ils sont passés en stable, bah, prendre les packages et les compiler pour leur système. Et ça se trouve, ça va rien changer de leur côté.
Je pense que ça explique que quelqu'un ou une boîte reprenne le build des binaires, parce qu'en fait, c'est ça qu'il n'y aura plus, c'est le build des binaires backporté sur la branche stable.
On a hâte qu'Amazon s'approprie CentOS comme ils se sont appropriés d'autres projets open source.
Bah, cela dit, CentOS était en partie, du coup, enfin... Il y avait de l'argent qui était injecté par Red Hat et Red Hat qui a été acheté par IBM.
Globalement, le côté communautaire de IBM à fond et pas Red Hat, j'ai envie. C'est IBM qui a tué.
Ouais.
Moi, je pense qu'il y a quand même une tendance pour la plupart des distros d'aller vers quelque chose de plus. On parlait des streams tout à l'heure, d'aller vers quelque chose d'un peu plus flux continu et d'arrêter de maintenir des releases de 15 ans parce que c'est très compliqué de projeter sur 15 ans en termes d'évolution de techno et puis garder les profils pour le maintenir, quoi. C'est pas anodin, quoi. Donc,
t'as deux mondes qui s'opposent en fait, c'est-à-dire que t'as la cloudification et l'immuabilité des infrastructures d'un côté, où en fait t'es tout le temps sur des choses à jour. Et est-ce que tu veux du coup, dans une logique de marché, c'est-à-dire au niveau de l'IT en tant que domaine, est-ce que tu veux maintenir une branche comme ça où tu assumerais que t'as un vieux truc et que du coup tu y touches pas, etc. La question, c'est
quoi ? Moi, ça me fait penser à ce dont on parlait une des dernières fois, qui est l'évolution aussi du modèle pour Java et pour les JDK, où c'est parti aussi vers quelque chose d'un peu plus progressif comme ça, et avec des temps beaucoup moins longs. Par contre, il y a des LTS, et là, la LTS est payante, là, pour le coup.
La question que ça pose, c'est les applis qui sont dessus et leur flexibilité. C'est-à-dire que tu as plein d'applis, tu les mets une fois, tac, et en fait, tu touches plus, et de toute façon, elles suivent même pas. Elles ont été développées une fois, elles sont plus compatibles avec les libres des nouvelles distrib, etc. Donc, ce genre de choses, moi je pense que ça rebat les cartes même du marché des distributions. Hein. T'as des boîtes qui vont du coup se dire ok, bah, c'est quoi notre stratégie et qu'est-ce qu'on fait ? Et qui du coup envisagent tout.
Chez OVH, sur CentOS, vous avez des trucs basés là-dessus ou...
Sans doute.
Ok.
Je sais qu'il y a beaucoup plus de Debian qu'autre chose, mais.
Forcément.
Après, pas forcément ce que vous utilisez, mais ce que vos clients déploient. J'imagine que tu as pas mal de clients qui vont déployer du CentOS chez vous.
Ouais, ça, je pense.
Je n'ai aucune visu sur cette répartition-là. Je peux pas te dire.
Ah, c'est probable qu'il y en ait pas mal, ouais. C'est probable.
Eh bien, on verra. On a hâte de voir comment ça va se stabiliser. Après, c'est normal que ce soit un marché qui structure. Et tu vois que les grosses boîtes sont en recherche de revenus et essayent de...
Je pense que tu vas avoir les commerciaux Ubuntu là en ce moment, ils doivent être.
Ouais, genre, mais il y avait clairement.
Suzy, pareil, je pense qu'il.
Va être taqué, ouais.
Ah, vous avez été abandonné. Ah, venez.
Suzy est passé en stream aussi, hein, donc.
Ouais, mais.
Mais ils vont y aller, c'est clair. Chez Novell. Ouais, c'est plus Novell d'ailleurs.
On passe à une nouvelle release. On a peut-être touché un ou deux mots la dernière fois, je ne sais plus. PHP 8 est sorti. Ça y est.
Ouais, j'en avais parlé il y a deux ou trois mois quand la première RC0 ou RC1 était sortie. Et là, ça y est, ça fait deux ou trois semaines maintenant que la version finale donc, de PHP 8, la 8.0, est sortie. Dans les features vraiment intéressantes, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a qui sont. Enfin, il y en a quand même quelques-unes. Mais moi, dans celle que j'ai beaucoup aimée, il y a entre autres par exemple, les match expressions qui permettent de remplacer un switch que vous faites d'habitude par un truc beaucoup plus concis, donc, par un match. La seule chose qui m'a un peu perturbé, c'est qu'au final, le match, tu peux exécuter qu'une seule instruction dedans, enfin, tu n'as qu'une seule ligne de code, tu ne peux pas faire du multiline comme tu pouvais faire avec du switch ou autre.
Tu ne peux pas faire du bloc, ouais.
Tu ne peux pas faire du bloc, donc je trouve ça un peu dommage, honnêtement.
Tu mets ça dans une fonction, non ?
Oui, à la rigueur, tu pourrais faire une fonction ou ce genre de choses.
Pas y mettre un lambda ou un truc dans le genre ?
Alors, un lambda, non, je pense pas, mais. Enfin, je sais pas si ça existe, les lambda en PHP, je crois pas.
C'était une question ouverte, j'avoue que je.
Ouais, j'avoue que je sais pas. J'en fais pas tous les jours.
Il me semble que si, voilà. J'ai un doute. J'ai regardé.
Le match est plutôt cool. Et surtout le Null Safe Operator qui est une feature que j'attends en JavaScript. Alors je sais plus si elle est sortie ou pas. Mais globalement, qui permet en fait de. Vous avez une chaîne d'appels, par exemple, d'accès à une structure qui a un champ, qui elle-même a une fonction, qui retourne une autre structure, etc. Et du coup, le Null Safe Operator en fait, vous permet d'éviter à chaque fois que vous accédez à un champ, de regarder si ce champ est nul avant d'y accéder. Pour éviter d'avoir une NPE, quoi, enfin une pointer exception. Et avec cet opérateur, au final, le code généré s'en occupera tout seul, c'est-à-dire que dans votre variable finale, vous aurez soit nul, s'il y a eu un problème durant la chaîne d'accès, soit toute la méthode, enfin tout le résultat pardon, de votre accès. Quoi. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve.
Alors, pour info, Arnaud, j'ai rien de regarder. En fait, il y a des fonctions anonymes dans PHP. Alors, je sais pas si elles sont depuis PHP 8 ou déjà avant. Je me semble que si. Ça ressemble pas mal aux fonctions anonymes en JavaScript. C'est-à-dire, c'est des fonctions auxquelles on donne pas de nom. Il y a le mot-clé function et ainsi de suite et on peut les invoquer. Donc, j'imagine que c'est la manière de faire un bloc dans un match.
Ah, ça peut. Ok. Ben, c'est plutôt cool à savoir.
Et on en profite pour expliquer, enfin pour dire que c'est supporté chez Clever Cloud PHP 8 depuis la semaine dernière au moins.
C'est ça. Venez jouer avec.
Vous pouvez faire du PHP 8 chez Clever.
Et du Composer 2.
Du coup, moi j'ai une question, parce que j'y connais rien en PHP, mais je vois qu'il y a du Just-in-Time. Est-ce que ça a un lien avec les travaux de Facebook sur PHP, HHVM, tout ça, ou ça n'a rien à voir?
Non, un lien, je sais pas, mais je suppose que ouais, c'est une idée d'essayer d'accélérer la chose, ouais. Peut-être qu'ils ont repris l'idée ou du code a été contribué, j'avoue, j'ai pas regardé.
Apparemment, il y a deux sites en plus.
Ouais, il y en a deux, Tracing JIT et le Function JIT, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu globalement, c'est que dans la majorité des cas, ça risque de pas trop améliorer les performances. Enfin, ça va pas non plus les dégrader, ça va pas les améliorer de manière significative. Ça dépend forcément du workload, mais. Ils ont mis un benchmark et sur du WordPress, c'est vraiment 50-50. Il y a un tout petit peu de perte de perf sur un digit et un tout petit peu de gain grâce à un autre, donc c'est pas incroyable. Mais en général, ouais, comme du WordPress où en fait toutes les requêtes en fait sont très, on va dire très courtes. Il y a beaucoup de code, mais c'est quand même très court, donc le JIT en fait aura pas trop le temps de vraiment s'activer là où ce sera.
Beaucoup en IO, quoi.
Ouais, là où ce sera vraiment intéressant, c'est quand vous avez, imaginons un gros script, je sais pas, qui fait un gros fait de champ DB, peut-être avec beaucoup d'opérations dedans, ce genre de choses, là ça peut aider, ouais, mais pas trop avant. Pour l'instant, c'est évidemment un travail en cours, quoi.
Ok, on reste dans les releases et on passe à la release de Vertex 4.
Ouais, alors Vertex 4, on a mis un lien vers l'annonce dans les show notes, qui est relativement, enfin qui est plutôt très compatible avec le 3. Et donc j'ai quelques infos. Je remercie.
Qu'est-ce que
Vertex? Ouais, c'est vrai que j'ai. C'est une bonne question.
Moi, j'y connais rien.
Vertex, si tu veux, au départ, ça se voulait comme une sorte de similaire, quelque chose de similaire à Node.js qui est polyglotte sur la JVM.
D'accord.
Donc, en fait, tu peux coder dans plusieurs langages et tu as quelque chose qui est basé sur une event loop. C'était vraiment le départ, la toute première version de Vertex. Depuis, c'est quelque chose c'est une plateforme intéressante pour faire des API réactives. Donc, c'est vraiment un framework complet pour faire une appli de bout en bout. Et donc, c'est assez intéressant. Ça se place au même niveau qu'un, comment s'appelle-t-il, qu'un Graal, que ce qui est sur GraalVM. Le projet là qui bouge beaucoup en ce moment, notamment
Quarkus,
ouais, c'est un peu, ouais, tu peux passer, ça se place en alternative et ça peut être utilisé dans Quarkus aussi, et me semble-t-il, je suis pas sûr.
Complètement, en fait, il y a plein de trucs Quarkus qui sont basés sur Vertex.
Ouais, et donc il y a plein de choses intéressantes dedans, notamment des drivers optimisés, c'est-à-dire que des drivers optimisés haute performance pour faire du SQL sur PG, sur MySQL et DB2, mais basé sur du réactif, quoi. Pas sur du pooling avec des objets en session, des trucs comme ça.
En fait, si tu veux opposer Vertex à quelque chose, tu peux l'opposer à Radpack. J'avais beaucoup parlé de Radpack il y a très longtemps. Enfin, tu vois, c'est des stacks de programmation réactive. Yep. Radpack avait clairement une orientation web, là où Vertex est beaucoup plus général.
Et donc, dans ce que... J'ai demandé quand même à Julien Viette, qui viendra peut-être nous faire un coucou dans un prochain épisode, de ce qui était le plus marquant, on va dire, dans cette release, et c'est le passage au futur, en masse par rapport au callback, c'est-à-dire que ça devient vraiment le mode principal et plus des callbacks, même si c'était déjà disponible en partie dans Vertex 3. Mais... Et donc, c'est basé sur RxJava et il y a une API basée sur RxJava 2 qui permet d'avoir des choses un peu plus modernes. Et il y a un support d'Open Tracing et Zipkin pour les gens qui font du FAS basé sur Vertex qui est naturel, entre guillemets. Et sinon, globalement, il y a une très bonne compatibilité avec les versions précédentes. Donc, globalement, tous les exemples, si vous prenez Vertex in Action, vous allez dans Vertex 4, ça marche très bien. Donc, c'est à adopter rapidement si vous faites du Vertex ou si vous voulez le tester. Commencez par la 4 direct. Et ça, tous les bouquins vous aideront dans ce sens. Et il y a aussi un nouveau client qui est basé sur Redis et qui Dixit Julien Poutre Lettus.
Julien, c'est un développeur de Vertex.
C'est un des principaux et un gros contributeur open source de Red Hat devant l'éternel.
Lettus, c'est un des clients tradis dans le monde Spring, dans le monde Java pour se connecter à Redis. Et apparemment, il se fait démonter, c'est cool. Idem pour les clients SQL. Moi, je sais que j'avais essayé R2DBC, qui était les clients réactifs côté écosystème Spring, et donc côté Vertex, t'as aussi des clients réactifs pour des bases données qui ne sont pas forcément réactifs, type PG, MAI, DB2, etc.
Yep. Exactement.
DB2, quoi. T'as mis DB2 dans les show notes.
Ah, moi, j'ai mis sur ce point-là, j'ai mis précisément ce que m'a dit Julien. Je pense que c'est quand même Red Hat IBM. Hein, donc...
Ouais, c'est ça, Red Hat et DB2, quelque part. je sais pas, quelqu'un utilise Vertex ici?
Alors, moi, j'avais pas mal bricolé à un moment donné dessus sur la 2. J'avoue que j'avais pas regardé la 3, mais là, du coup, le support de futur, ça a l'air alléchant. Donc, jetez un coup d'œil.
Bah, moi, je connaissais pas, donc.
Donc, non.
C'est l'occasion de découvrir.
Oui, clairement.
C'est vrai que nous, sur la stack JVM, on a plus tendance à faire tout en scalar, en direct.
Non, mais après, en fait, en termes d'hébergement, ce qui peut héberger une JVM peut héberger du Vertex. Donc,
tout à fait.
Donc, il y en a sans doute quelque part.
On termine avec la news de la semaine, la news la plus importante de la semaine.
Le showstopper, le truc.
Ouais, le truc sur lequel on ne peut pas.
Breaking news, mettez le bandeau.
Il y a un dark theme pour GitHub. Ouais. on rappelle aux gens qui comprennent pas forcément pourquoi les dark themes c'est cool, que des fois quand t'es d'astreinte, quand tu te réveilles la nuit, ton ordi, tu te fais laminer les yeux, et quand il y a un dark theme, moins.
C'est
ouais, ou même, tu sais, quand il fait nuit à partir de 17h30, 18h.
Ah, en hiver, ouais. Dès que tu dois bosser après, si tu dois bosser après 16h30 ou que tu te lèves un peu avant 9h, ouais. Globalement, ça fait bien.
C'est quand même bien plaisir, ouais.
C'est ça, c'est moins agressif pour les yeux. Donc, c'est dans les settings de votre compte. On mettra là en direct.
On rappelle qu'il y a un dark theme dans la nouvelle doc, qui n'est pas encore complètement terminé, mais que vous pouvez essayer dans la nouvelle doc.
Doc Clever Cloud. Hein.
Salut.
Blague à part, vous pensez quoi de la lisibilité des dark themes?
Moi, je m'en sers quand c'est là, je m'en sers globalement.
Pareil, ouais, ouais. La même.
Parce que je suis d'accord que ça soulage l'œil, mais moi, j'ai tendance à trouver ça moins lisible, tu vois. Il y a moins de contraste et du coup.
Ça, je pense que les yeux varient. Ouais, tout le monde n'a pas la même sensibilité à ça. Ouais.
Après, je sais qu'il y a Alexandre, un collègue, qui se plaignait de ne pas encore avoir de thème Solarize justement sur GitHub.
Les goûts et les couleurs, comme on dit, les goûts et les couleurs.
Ouais, voilà, ouais.
Ah, mais après, il n'y a aucun débat sur la lumière est blanche le soir. Hein, ça...
ouais. Tous les dark themes ne sont pas égaux, effectivement. Je pense que c'est toujours une afterthought quand tu développes un truc. Tu penses d'abord au thème normal et éventuellement après tu penses au dark theme. C'est littéralement ce qui s'est passé pour notre doc. Et effectivement, notre niveau de contraste sur le dark theme n'est pas ouf. Et ça peut rendre la lisibilité compliquée. Ouais,
il y a une chose qui joue aussi, c'est que les fontes elles-mêmes sont souvent conçues pour être vues sur des fonds sombres. Donc leur forme et tout ça sont faites pour qu'elles se détachent bien sur un fond clair. Donc du coup, quand on les inverse, ça ne rend pas forcément plus visible.
Ah, c'est ça. Il faut que le truc soit bien ajusté. Ouais.
C'est ça. Il faut bien choisir ses fontes et choisir ses couleurs.
Right, ça fait à peu près une heure et demie qu'on enregistre. Je vais donc procéder au choix musical et je vais donc lancer mon dé et j'ai fait 20 et c'est merveilleux puisque j'ai littéralement fait 20 et que en général quand il y a un invité,
c'est un coup critique.
Du coup, on peut vraiment mettre le son de Steven.
En même temps, on voit pas ton dé donc.
Ouais, je sais, mais j'étais sûr que c'était 20.
Ouais, bon, je crois. Attends, d'ailleurs, oui, Steven, 20. Tiens, regarde. Ah,
ouais, vous m'avez pas vu galérer à trouver la bonne phrase, moi je suis pas d'accord.
On te l'avait posé sur la table.
Du coup, je dois te décrire le lien musical, c'est ça ?
Exactement, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, ce que je vous propose, je ne sais même pas de quand ça date, je sais juste que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne sais pas si vous connaissez System of a Down, c'est un groupe qui date un peu, et en fait, j'ai découvert que le chanteur, enfin ils sont deux, mais
chanteur...
Serge
Tankian, en fait, il a fait un enregistrement, il a fait un album solo, enfin c'est lui qui a quasiment tout fait, mais il a fait surtout l'enregistrement de cet album avec l'orchestre néo-zélandais d'Auckland. Et franchement, j'ai découvert ça et c'est pas mal. Donc c'est sans prétention, voilà, c'est le partage du moment.
Un orchestre symphonique sans prétention.
C'est ça. Non, le partage est sans prétention, mais. Celle que je vous partage, c'est la première de la sélection sur Spotify, je crois, mais elle a un petit effet happening cinématographique assez sympa.
Galvanisons-nous.
Voilà.
Bah cool. Merci infiniment, Steven, d'avoir accepté notre invitation au début.
Merci beaucoup.
Que, bon, globalement, je vous explique comment ça s'est passé. Steven m'a dit « faudra parler de ça ». Et je lui ai demandé s'il voulait venir, et il m'a dit oui. C'est globalement comme ça que la plupart des invites se passent. J'en profite pour dire à tout le monde que si vous voulez venir parler dans Messages à caractère informatique, les invitations sont ouvertes à toutes et tous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc encore une fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois d'avoir participé. Et on vous dit à la prochaine fois. Je dis plus à la semaine prochaine parce que ça marche pas là. Mais,
une fois, ça va.
Merci Laurent.
Merci.
Salut, à plus.
Ciao.